soyez la bienvenue. Voilà. Eh bien, Pierre a déjà introduit un peu le thème de la prédication, le Dieu créateur, et c'est ce que nous voulons voir ce matin avec la grâce de Dieu. Avec l'été qui s'installe petit à petit, chacun de nous aura l'occasion d'apprécier les beautés de la nature. Et nous voyons déjà que la nature tout autour de nous grouille de vie à cause de l'effet conjugué des précipitations et du soleil. Il est possible qu'en contemplant un beau paysage, un beau coucher de soleil, de belles fleurs sauvages ou cultivées, nous puissions nous souvenir de cette parole de la Bible, cette première phrase de la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le récit de la création nous apporte un enseignement sur Dieu et sur nous-mêmes. Nous verrons ce matin que le récit de la création nous renseigne sur la puissance de Dieu. Nous l'avons chanté dans plusieurs cantiques et sur l'amour de Dieu. Lisons donc Genèse chapitre 1 et 2 pour découvrir le Dieu créateur, la puissance de Dieu et l'amour de Dieu pour nous. Donc Genèse chapitre 1 et 2. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Voilà très beau récit de la création qui nous parle de la vie et nous voulons voir ce matin donc le Dieu créateur. Et tout d'abord, nous voyons la puissance de Dieu. Il nous est parlé de l'homme et de la femme dans cet environnement. Et nous savons que l'homme est une créature fragile. Fragile parce qu'il est petit dans ce grand et vaste univers. Il est fragile parce qu'il n'est qu'une créature quand on le considère par rapport au Dieu Tout-Puissant. Il est fragile et même faible à cause de son péché. Et à cause de sa fragilité et de sa faiblesse, l'homme a besoin d'être soutenu, il a besoin d'être secouru, d'être fortifié. Comment peut-il avoir l'assurance qu'en se tournant vers Dieu, il va être secouru dans tous ses besoins? Sur quelles caractéristiques du Dieu créateur peut-il s'appuyer pour avoir la certitude qu'il sera soutenu dans sa faiblesse? La réponse est simple. Le Dieu qui a la puissance de créer le monde dans lequel nous nous trouvons a aussi la puissance de nous soutenir dans notre faiblesse. Si nous voulons avoir une idée du potentiel de Dieu de nous soutenir, de nous secourir, de nous fortifier, nous devons nous souvenir qu'il est le Créateur Tout-Puissant. C'est en présentant Dieu comme le Créateur que le prophète Ésaïe va encourager le peuple d'Israël. Les prophéties d'Ésaïe, du chapitre 40 à 66, s'adressent à Juda, comme si la déportation à Babylone avait déjà eu lieu, alors qu'en réalité, elle aurait lieu bien plus tard, de 605 à 586 avant Jésus-Christ. Donc, Ésaïe prophétisait cet exil. Et donc, le peuple d'Israël, le peuple de Juda, exilé à Babylone, est privé de tout espoir. Il a été déporté dans des conditions difficiles, plus de 1000 kilomètres entre Juda et Babylone. Et de qui parle Ésaïe ? Ésaïe parle du Dieu qui sauve par grâce. Dieu est capable de sauver, de soutenir, de fortifier, d'encourager, parce qu'il est le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Et regardons ce qu'Ésaïe disait dans Ésaïe 40, versets 26 à 28. Ésaïe 40, versets 26 à 28. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. C'est l'Éternel. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. On peut aller jusqu'à la fin. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà, le Dieu créateur peut soutenir l'homme dans sa faiblesse parce qu'il est le Dieu tout-puissant. On retrouve la même pensée dans le psaume 121. Le psaume 121 décrit un pèlerin qui se rend à Jérusalem pour célébrer une des nombreuses fêtes, une des grandes fêtes de l'Ancien Testament. Il sait que des difficultés... J'ai un écho, j'ai quelqu'un qui parle en même temps que moi. Est-ce que vous pouvez... Voilà, merci. Il sait que des difficultés et des dangers l'attendent en route. Il devra traverser des contrées arides ou infestées de bandits. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux vers la montagne, au loin, et il pense à son pèlerinage. Et il se demande, d'où me viendra le secours? Et nous pouvons lire au psaume 121, verset 2, « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre ?» Voilà son encouragement. « Le secours lui viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Dieu lui-même va utiliser ce type de pédagogie avec Job. Dans Job, chapitre 40 à 41, nous n'allons pas lire ce chapitre, mais vous savez, vous connaissez l'histoire de Job. Job est sévèrement éprouvé. Et il a entendu les discours de ses amis, ses trois amis, discours peu encourageants. Ses amis le poussaient à confesser son péché pour retrouver une communion avec Dieu, alors que Job n'avait pas péché. Personne ne savait, ne comprenait ce qui se passait. Mais ses amis, avec leur théologie, voulaient pousser Job, à confesser un péché hypothétique. Ils encourageaient en quelque sorte Job à une foi commerciale. Confesse ton péché et Dieu va te donner de bonnes choses. Et Job a répondu à ses amis pendant tout le livre. Job désirait entendre Dieu. Il souhaitait que Dieu lui parle et Dieu va lui parler. Le discours de Dieu est déroutant quand Dieu va parler à Job parce qu'il ne répond pas aux questions de Job. Il ne contient aucune explication concernant les causes de la terrible épreuve du serviteur de Dieu, de Job. Dieu n'explique pas non plus la raison de la souffrance des justes et la prospérité des méchants. Comment Dieu va-t-il amener Job à lui faire entièrement confiance, même s'il ne comprend pas tout? Comment Dieu va faire Job tenir courage, tenir bon dans l'épreuve difficile qu'il traverse? Dieu va attirer l'attention de Job sur l'immensité de la création, sur l'harmonie de son fonctionnement et sur ses nombreux mystères. Et on voit ça dans Job 40 à 41. Or, c'est Dieu qui est à l'origine de ce vaste univers. C'est lui qui le dirige, c'est lui qui en prend soin. C'est donc un Dieu sage et puissant. On peut lui faire pleinement confiance. Et là, Job va être vraiment encouragé. Il va pouvoir patienter jusqu'à ce que sa situation s'améliore. On pourrait penser donc que l'idée d'un Dieu créateur se cantonne seulement à l'Ancien Testament. On pourrait se dire que voir Dieu comme un Dieu créateur est une bonne chose pour l'Ancien Testament. Et qu'aujourd'hui, il suffit de connaître Dieu comme notre sauveur, comme notre berger. Eh bien, le Nouveau Testament nous encourage aussi à connaître le pouvoir de Dieu en tant que créateur. Le Nouveau Testament insiste de plusieurs façons sur la nécessité de connaître le pouvoir de Dieu en tant que créateur si nous voulons goûter à sa puissance et à son réconfort en tant que sauveur. C'est l'apôtre Paul qui va utiliser le langage de la création pour décrire la puissance de Dieu qui donne la vie à des pécheurs perdus. Nous sommes rappelés ce matin que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, par le sacrifice de Christ sur la croix. Prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 4 pour voir comment Paul s'appuie sur le langage de la création pour parler de la puissance de Dieu qui peut nous soutenir, qui donne la vie aux pécheurs perdus. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Regardez comment l'apôtre Paul s'exprime aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, ça nous ramène à la création, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Voilà, le Dieu créateur, c'est celui aussi qui peut sauver les pécheurs perdus, parce que lui a créé d'une façon parfaite, d'une façon harmonieuse, cette belle création. Le langage de la création est encore utilisé plus loin pour parler de ce monde spirituel dans lequel nous sommes entrés en Christ. Et c'est toujours 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Vous avez juste à tourner la page. Et c'est un verset que nous connaissons bien. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voilà l'idée de la création du Dieu créateur qui nous soutient, qui nous encourage, qui sauve les perdus. Et le Nouveau Testament ne s'arrête pas là dans son insistance sur le Dieu créateur. Quand il veut mettre en évidence la puissance de Christ comme sauveur, le Nouveau Testament se sert de l'image de la création. Comment savons-nous que Christ a le pouvoir de nous sauver, de nous garder? Nous savons que Christ a le pouvoir de nous sauver et de nous garder parce qu'il est celui qui a créé et qui soutient toutes choses. Et cette fois-ci, je vous invite à prendre Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17, pour voir comment l'apôtre Paul utilise encore l'image de la création, l'image du Dieu créateur. 1 Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17. On peut commencer, oui. Au verset 15, Colossiens chapitre 1, verset 15, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Voilà, Dieu qui est créateur. Connaître donc Dieu comme créateur, c'est connaître sa puissance. Cela nous procure le même réconfort et le même encouragement qu'Ésaïe a prodigué au peuple d'Israël, dans Ésaïe 40 que nous avons lu. Cela nous prodigue aussi le même encouragement qu'a reçu Job dans son épreuve. Savoir que Dieu est le créateur répond à nos craintes. Il a créé toutes choses et il soutient toutes choses. Son énergie ne diminue pas. Il est le créateur, il peut donc nous fortifier, il peut nous secourir, il peut nous encourager dans toutes les épreuves qu'il permet dans notre vie. Si la création révèle la puissance de Dieu, elle révèle aussi autre chose. Elle révèle aussi son amour et sa bonté, et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Vous avez vu avec moi qu'il y a deux récits dans Genèse, et il nous semble, on peut être déconcerté par la lecture de Genèse 1 et Genèse 2. Il nous semble avoir deux récits différents de la création. En réalité, ces deux chapitres se complètent. Dans Genèse chapitre 1, l'auteur décrit les différentes étapes de la création pour terminer en apothéose avec la création de l'homme. Des versets 3 à 25 du Genèse 1, une même structure se répète. On dit « Dieu dit » et après on voit que Dieu se réjouit. Dieu parle de ce qui doit paraître ou de l'élément d'où doit sortir quelque chose. C'est ainsi que nous lisons au verset 3 de Genèse 1 « Que la lumière soit ». Dieu dit quelque chose et la lumière fut. Et le deuxième jour, il y a le ciel. Et le troisième jour, on voit que le sol apparaît par la séparation de l'eau avec la terre. Et ce schéma se répète 6 fois dans Genèse chapitre 1. Et quand on arrive au verset 26, il y a un changement. Il y a quelque chose de solennel qui intervient. Dieu tient un conseil divin, dans Genèse chapitre 1, verset 26, et il décide de créer l'homme. Alors, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Voilà, Dieu décide de créer l'homme, non pas selon son espèce, comme on a vu au verset précédent, verset 11, 21, 24, 25, toutes les choses ont été créées selon leur espèce, mais l'homme est créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes alors devant un nouveau type de créature. L'homme est une nouvelle créature, une créature spéciale qui entretient des rapports différents avec Dieu parce qu'elle est faite à l'image de Dieu. Les autres créatures sont créées selon leur espèce. Mais l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, l'homme va pouvoir avoir une relation, des rapports différents avec Dieu. Mais l'homme va pouvoir aussi avoir des rapports différents avec le reste de la création puisque l'homme est chargé de dominer sur la création. L'homme est en quelque sorte le représentant de Dieu pour régner sur la création. Il est l'aboutissement du dessein de Dieu dans la création, dans Genèse 1. Maintenant, quand on regarde Genèse 2, le schéma est différent. On voit que l'homme n'est pas l'aboutissement, mais le centre de la création. Genèse 2 commence par « Voici les origines » au verset 4, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. » Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, verset 4. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Voilà, ça commence par la création de Genèse chapitre 2. Et puis l'homme intervient ensuite. Donc Genèse 2 commence par la création de l'homme, puis décrit son environnement. En fait, ces deux chapitres sont complémentaires. Et ces deux récits complémentaires nous montrent l'amour de Dieu pour l'homme et les soins qu'il prodigue à l'homme dans tous les aspects de son existence. Ça nous encourage, n'est-ce pas? L'amour de Dieu pour l'homme se voit dans plusieurs domaines. Et nous, il y a le premier domaine dans lequel nous pouvons voir l'amour de Dieu, c'est que Dieu a conféré à l'homme une dignité unique. Nous avons lu que les autres créatures ont été créées selon leur espèce. Mais l'homme, au contraire, a été créé à l'image de Dieu. Donc il a une dignité unique. Il a été créé pour représenter Dieu dans une forme créée, dans une forme humaine. C'est pourquoi l'homme exerce la domination. L'homme est en quelque sorte pour la terre ce que Dieu est à l'univers. Ce privilège accordé à l'homme, cette dignité confiée à l'homme, se voit de bien des façons dans Genèse chapitre 1 et 2. Au verset 20, Genèse chapitre 2, verset 20, on peut voir que et Dieu et l'homme, on voit au verset 20 du chapitre 2, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. L'homme reçoit la mission de nommer les animaux, de donner des noms à ces animaux. Alors ça ne devait pas se faire un peu n'importe comment, il fallait discerner chez chaque animal un élément qui permettrait de l'identifier correctement, donc il fallait une certaine dose de discernement, de connaissance. C'est aussi un acte d'autorité sur l'être que vous nommez. Si vous dites celui-là, tu t'appelleras ça, tu t'appelleras ça, vous avez une autorité sur la personne que vous nommez. On voit aussi que l'homme est capable d'exprimer de façon rationnelle l'adoration, avec des mots, avec des chants. On voit aussi que l'homme est celui à qui Dieu donne des instructions. Voilà, ils ont reçu de Dieu la responsabilité de prendre soin du jardin, de nommer les animaux. On voit d'ailleurs prendre soin du jardin, c'est une grande responsabilité. Et tout cela nous dit que le travail n'est pas une tare, le travail n'est pas une conséquence de la chute. Nous travaillons parce que Dieu est un Dieu énergique, c'est un Dieu actif. Nous travaillons parce que nous sommes faits à l'image du Créateur qui est un Dieu actif. Le travail fait partie de la dignité de l'homme. Donc ce n'est pas rejeté. Avec les privilèges uniques qu'il a reçus, l'homme a aussi reçu une mission spéciale, servir et glorifier Dieu. Ainsi, l'amour de Dieu se voit d'abord dans cette dignité unique que l'homme, que Dieu lui a confiée. Mais l'amour de Dieu pour l'homme se voit dans un autre domaine. L'amour de Dieu se voit dans le fait que Dieu a créé l'homme comme un être relationnel. Il existe entre les trois personnes de la Trinité une relation d'unité, de communion et d'amour dont nous ne pouvons pas parfaitement discerner toutes les dimensions. Nous ne pouvons pas comprendre complètement cette unité, cette communion, cette complicité qu'il y a entre les trois personnes de la Trinité. Eh bien, l'homme a été fait pour expérimenter la communion. L'homme a été créé pour faire l'expérience de la communion. Il a été créé pour être en communion avec Dieu. Dieu lui parle. Il a été créé pour être en communion aussi avec ses semblables. Les hommes vont parler avec les hommes. Il a été créé avec la faculté de tisser des liens avec ses semblables, avec les autres hommes. Et voyez, quand l'homme a donné un nom aux animaux, il n'a trouvé chez aucun d'eux une aide semblable à lui. Dans Genèse chapitre 2, verset 20. C'est pourquoi Dieu créa la femme, parce que l'homme allait rester tout seul. Il n'allait pas pouvoir parler aux animaux comme ça. Il fallait quelqu'un avec lequel il échange. Il fallait quelqu'un qui lui soit semblable. Il échangerait certes avec Dieu, mais ça n'allait pas être parfait. Eh bien, Dieu, dans sa bonté, a créé une femme pour l'homme. Elle ressemblait à Adam tout en étant différente de lui. Et nous avons lu qu'elle devait se tenir à ses côtés devant Dieu. La création de l'homme et de la femme nous apprend deux valeurs importantes, l'amitié et le mariage. L'homme est un être relationnel. C'est vraiment une manifestation de l'amour de Dieu. L'amitié, par exemple, nous permet de tisser des liens avec nos semblables. Les élèves, les lycéens connaissent bien ça. Elle permet d'entretenir une communion entre les hommes et les femmes. Le mariage, quant à lui, est une institution divine. Tout le monde n'est pas amené à se marier. Mais nous ne devons pas oublier que le mariage est un don de Dieu. Et on lit ça dans Genèse, chapitre Genèse chapitre 2, verset 22, l'Éternel Dieu, on peut lire déjà au verset 21, Genèse 2, 21, Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Voilà. Le mariage n'est pas une institution humaine, c'est une institution de Dieu. On a lu que c'est Dieu qui forma une femme de la côte de l'homme qu'il avait. Et c'est Dieu qui amena la femme vers l'homme. Voilà. Et le mariage répond à plusieurs objectifs. Bon, c'est, nous parlons de la fête des mères, eh bien, le mariage constitue l'environnement favorable par Dieu pour l'accueil et l'éducation des enfants. C'est dans les foyers que les enfants naissent, c'est là qu'ils trouvent un équilibre. C'est là qu'ils peuvent connaître, recevoir une bonne éducation. C'est aussi dans les liens du mariage que les instincts sexuels trouvent leur satisfaction. Le mariage est avant tout, comme la Genèse l'indique, une institution divine qui permet à l'homme et à la femme de tisser des liens d'amitié particuliers, d'avoir une communion très particulière. Le mari et la femme se connaissent tellement bien, tellement profondément l'un l'autre, que seul Dieu les connaît mieux que l'autre. Mieux encore, tout cela est un don de Dieu qui désire manifester sa bienveillance envers ses créatures. L'amour de Dieu pour l'homme se voit donc premièrement dans la dignité unique que Dieu lui a confiée. L'amour de Dieu pour l'homme se voit ensuite dans la capacité de l'homme à entretenir des relations aussi bien avec le Créateur qu'avec les créatures. Et nous allons voir enfin que l'amour de Dieu se voit dans le fait que l'homme a été créé pour qu'il puisse adorer son Créateur. Et Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, que nous pouvons lire, est une sorte de conclusion. Prenez avec moi Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Il nous a dit qu'au septième jour, Dieu acheva les cieux et la terre. Il acheva son œuvre de création et Dieu se reposa. Il nous a dit aussi qu'il bénit le septième jour et qu'il le sanctifia. Le modèle suivi par le Créateur, 6 jours de travail suivis d'un jour de repos, devrait aussi nous servir de modèle, nous qui sommes faits à l'image de Dieu. Et nous sommes aussi, dans notre existence, amenés à faire des choses. Comme le Dieu a fait beaucoup de choses, eh bien nous sommes aussi amenés, en tant que créatures à l'image de Dieu, de faire un certain nombre de choses avec notre esprit, avec nos membres. Voilà. Eh bien, Genèse chapitre 2 ne nous dit pas beaucoup de choses sur le septième jour, mais le reste de la Bible nous parle de ce septième jour longuement et largement. Le reste de la Bible nous apporte des informations sur ce septième jour. Ce jour de repos n'était pas un jour où on fainéantisait. On était dans son lit, on restait là, faire la grasse matinée, se réveiller après pour manger et c'était reparti. Non. Le septième jour, c'est le jour où le travailleur peut jouir de son Créateur, de la création, comme nous le faisons aujourd'hui. C'est ce jour où nous adorons le Seigneur, nous rappelons qui nous sommes, nous rappelons qui il est, nous rappelons ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Nous refixons nos regards aussi, notre cœur sur l'éternité. La vie sur cette terre ne va pas durer éternellement. Nous avons besoin d'être en règle avec notre Créateur. C'est aussi le jour où on peut se consacrer davantage. On a plus de temps pour la communion avec Dieu, pour l'adoration. Nous le faisons ici. Nous pouvons le continuer à la maison. Nous pouvons le continuer avec des frères et sœurs. Voilà, c'est un jour de repos pour adorer notre Dieu. Ce jour de repos est un autre bienfait de Dieu. C'est un autre bienfait qu'il nous accorde à nous qui avons été faits à son image. Ce jour nous permet de nous ressourcer, de renouveler nos forces, de reprendre courage en contemplant tout ce que Dieu a accompli et en l'adorant en retour. En créant l'homme, Dieu n'a rien laissé d'inachevé. Il n'a laissé aucun de ses besoins non satisfaits. Il a fait l'homme le couronnement de la création et l'a béni, et tout cela par pure grâce. À cause du péché, nous ne vivons plus dans le jardin d'Éden, dans un beau jardin où il n'y a plus de problème. Nous n'élevons plus spontanément notre voix pour adorer Dieu. Nous trouvons le travail pénible et même frustrant. Et plus ça va, il nous semble que plus le monde du travail est pénible. Nos relations avec les autres ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être. Le mariage est parfois une source de tristesse plutôt que de joie. Le péché nous prive finalement de la gloire de Dieu. Dieu veut pourtant que nous fassions de lui nos délices et qu'un jour l'accès au paradis soit de nouveau possible. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin d'accomplir l'œuvre de rédemption, afin de nous réconcilier avec le Père, afin que nous puissions retrouver une communion avec notre Dieu et l'adorer, comme cela se faisait au début. Alors tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ par la foi peuvent de nouveau apprécier non seulement Jésus-Christ comme sauveur, mais aussi l'apprécier comme créateur et lui rendre gloire et hommage tout le jour de leur vie. Que la parole de Dieu soit serrée dans nos cœurs.